France Inter.
Aujourd'hui, l'âge de la pierre, raconté par
Nicolas Tessandier, préhistorien et directeur de recherche au CNRS.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Imaginez un monde sans métal, sans écriture, sans ville, un monde où la plus grande invention humaine tient dans la paume de la main un éclat de pierre taillée. L'âge de la pierre n'est pas une époque primitive figée, c'est le temps des grandes premières, la première technique durable, le premier apprentissage organisé, les premiers maîtres, les premiers élèves. Quand nos ancêtres frappent une pierre contre une autre, il y a plus de 3 millions d'années, ils ne fabriquent pas seulement un outil, ils inventent une manière de penser. Derrière chaque tranchant se cache une intention et un savoir transmis. La pierre devient un objet de mémoire, elle oblige à enseigner autour de soi, à observer et à répéter les gestes. Et autour justement de ces gestes naissent des groupes plus soudés, avec des réseaux d'échanges qui relient des peuples très éloignés parfois. Peu à peu apparaissent des habitats construits, des rites pour les morts, avec des objets de prestige et des territoires partagés. L'outil transforme la société autant que la main qui le façonne. Et ce que l'on appelle plus tard la révolution néolithique n'est peut-être qu'une étape d'un apprentissage commencé bien plus tôt, celui d'une humanité qui se construit en apprenant à transformer la matière. Cet après-midi, nous remontons à l'origine de ces gestes fondateurs, lorsque des humains ont frappé pierre contre une autre. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Nicolas Tessandier.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous. Avec vous, on ouvre aujourd'hui une grande série dans la Terre au carré sur les âges qui ont façonné notre humanité avec les différents matériaux. On va explorer toutes les époques, depuis donc la pierre jusqu'au plastique, en passant par le feu, le fer, le bronze, le textile. L'âge de la pierre, c'est un bon début pour vous, alors, pour démarrer cette série? Parce qu'au départ, on se disait, tiens, on va commencer par l'âge du feu, ça nous paraissait logique. Mais non, effectivement, on a travaillé la pierre avant le feu.
Ah oui, si on veut, disons que si on veut parler des humains, oui, on va parler de la pierre avant le feu. Il y a un assez gros, même décalage chronologique, quelques millions d'années entre la première pierre taillée et le premier feu réellement façonné par les humains.
Ouais, le premier feu, d'ailleurs, c'est quand? Parce que tout le monde n'est pas toujours d'accord.
C'est compliqué, hein. Parce que c'est difficile au début de détecter un site archéologique qui aurait brûlé naturellement, incendie de savane, d'un feu qui a été construit en tropique. Mais on va dire qu'entre 800 et 500 000 ans, c'est en place.
Ouais. On va donc parler de la pierre avec vous. On dit l'âge de pierre, d'ailleurs. Cette expression, elle a été inventée dans quelles circonstances?
Elle est inventée première moitié du 19e siècle, dans ce grand moment de classification de la création des sciences naturelles, en quelque sorte, par un Danois qui s'appelait Thomsen, et qui va étaler chronologiquement la pierre, puis l'âge du bronze, puis l'âge du fer. Donc il va faire une grande première classification de l'évolution des techniques humaines.
Qu'est-ce qu'il essaye de montrer, alors, justement, en classant précisément ces périodes? Ça raconte quelque chose des sociétés, justement? C'est fait pour ça, cette classification, ou pas?
À cette époque-là, il y a beaucoup dans ces notions d'âge une volonté déjà d'organiser les choses temporellement et donc de montrer des grandes successions qu'on pourrait lire à travers le temps, quoi. Et du coup, il reconnaît que la pierre, la prééminence de la pierre et le caractère ancien de la pierre, même si à cette époque-là, début du 19e, la préhistoire est encore... ne s'appelle pas encore préhistoire et plus que balbutiante.
Ouais. Donc on montre quoi? On montre aussi la complexité des techniques et comment, au fil du temps, les humains ont précisé les choses à travers certains matériaux.
Voilà, on montre que la technique, finalement, a été constitutive de l'humanité et que c'est sans doute à travers les matériaux transformés par les humains qu'on va pouvoir progressivement d'abord les ranger les uns par rapport aux autres dans le temps, puis essayer de dire quelque chose de ces sociétés et de ce qu'eux appellent à l'époque Thomsen, ces fameux âges.
Voilà, c'est ce qu'on essaye de montrer en tout cas et ce qu'on va essayer d'étirer jusqu'à la fin de l'année pour évoquer et voyager à travers ces différents âges pour structurer, voir comment justement ça a permis aux sociétés humaines de se structurer à partir des objets. On dit que l'âge de pierre, Nicolas Tessandier, est la période la plus longue de l'histoire humaine. Est-ce que c'est vrai et quelle est du coup sa durée?
La plus longue de l'histoire humaine, oui, bien entendu, et de beaucoup. Ça a duré, le début, c'est fluctuant en fonction des découvertes. Hein. Mm-hmm. Ça a été longtemps, 2 millions et demi d'années, avec les premiers outils taillés en Afrique de l'Est. On est aujourd'hui à 3,3 millions d'années pour les premières interventions humaines.
Mmh. On y reviendra.
De fracturation de roches dures.
Mais c'est important, hein, parce qu'entre 3 millions et 2 millions, on n'est plus du tout dans les mêmes espèces. Hein,
voilà, on n'est pas dans les mêmes espèces, on n'est pas dans les mêmes contextes biologiques des acteurs. Donc on est de 3,3 millions d'années. Et puis dans certains environnements, la pierre a quasiment été taillée jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, avant les contacts avec les Européens. Il y avait encore beaucoup de sociétés en Afrique australe.
C'est-à-dire, là, on remonte jusqu'à quand? Alors, quand vous dites les premiers contacts avec les Européens, c'est quoi? Vous pensez à quoi?
Il y avait encore des tailleurs de pierre au XXe siècle. Quoi. Mm-hmm. Enfin, dans certains environnements, la pierre pouvait encore être utilisée, vraiment remplacée par le métal quand même de façon assez forte, mais sous forme d'appoint. Et puis on peut penser aux fameuses pierres à fusil, hein, qui sont un peu taillées comme... à la façon des silex taillés des paléolithiques ou des néolithiques.
Quoi. Donc c'est une longue histoire. Hein.
C'est une très longue histoire.
Au moins 3 millions d'années, hein, parce que ça, c'est les fossiles qui nous disent ça, finalement. Mais on pourrait peut-être imaginer en trouver de plus anciens.
Tout à fait.
Comment on explique cette durée exceptionnelle, Nicolas Tessandier?
Le phénomène humain est long par essence. La pierre a cet avantage pour les scientifiques d'être pérenne, et que du coup, c'est vraiment le matériau qui écrase un peu tout le reste en préhistoire, parce que quand on est sur des sites très anciens, il y a surtout de la pierre. Hein,
donc ça, c'est très bien pour l'archéologue.
Donc ça, c'est bien pour l'archéologue. Ça nous enlève quand même toute une facette. Hein, dans certains environnements, il faut imaginer ce que devait représenter le végétal, le bois, l'os, etc. Mais tout ça a tendance à fondre, le végétal encore plus que l'os.
Ouais.
Et ce qui ne fond pas, ce qui reste, et ce qui résiste au temps, c'est la pierre qui, elle peut bouger, elle peut traverser, migrer dans un cours d'eau, elle peut changer de position, mais par contre, elle ne disparaît jamais.
Donc elle conserve sa signature temporelle ?
Elle conserve les stigmates des actions qui ont été portées sur elle et dont elle résulte, si on parle d'un éclat de silex taillé, par exemple, il va porter en lui des caractéristiques qui permettent à la personne apte à les reconnaître, de l'identifier, de voir un peu qu'est-ce qu'il y a eu auparavant pour générer cet éclat.
Et ça permet de dater précisément les choses, alors ? La pierre, c'est un bon candidat à la datation pour un archéologue ?
Ouais, c'est ce qu'on appelle la chronologie relative. Elle est absolue quand on peut vraiment dater l'événement, par exemple avec le carbone 14, hein, qu'on va dater le charbon d'un foyer, et on va donner l'âge du moment de la combustion du bois. Et nous, on peut faire avec les pierres de la chronologie relative, c'est-à-dire qu'effectivement, en fonction des traditions des sociétés humaines à travers le temps, les outillages en pierre se sont modifiés. Et comme on a certaines datations absolues qui nous permettent de situer les choses dans le temps, on peut dire tel outil en silex est d'allure solutréenne, aurignacienne, magdalénienne ou paléolithique moyen. Alors des fois on donne une fourchette qui peut être plus ou moins 100 000 ans.
Oui, c'est ça, c'est quand même
là. Des fois, pour certains stades plus avancés de la préhistoire, on peut être précis au millénaire.
Oui.
Ou ensuite au siècle, pendant le mésolithique ou le néolithique, un marqueur culturel va être vraiment très précis, une façon de faire des petits segments, par exemple. Il faisait à la fin de la préhistoire, il faisait des armatures de flèches géométriques. Et là, on peut être vraiment sur des appellations précises dans le temps et dans l'espace même. Ouais.
Hein, c'est ce que j'allais vous demander, parce que quand on retrouve, par exemple, une pierre qui précisément comporte une signature culturelle très forte, est-ce que cette pierre-là, on peut la retrouver dans des endroits très éloignés de la planète, hein? C'est-à-dire qu'est-ce qu'au même moment, sans se croiser, des humanités ont eu la même idée, finalement?
Oui.
Ça, c'est quand même incroyable.
Plein de fois, ouais. Il y a des le biface, ou ce qu'on appelle le débitage levallois, qui est plutôt propre à Néandertal, mais qui a été aussi utilisé par Sapiens, qui est une façon de faire des éclats en pierre et de préparer un bloc de silex pour en faire des éclats qui vont avoir une forme stéréotypée, prévue à l'avance. Bon, ouais. Ça a été utilisé, c'est une technique qui a été utilisée pendant des centaines de milliers d'années sur l'Eurasie et le continent africain, par des Néandertaliens, mais aussi par des Homo sapiens, mais aussi sans doute par les fameux Denisoviens d'Asie. Et donc, il y a certaines grandes... Finalement, il y a une forme de convergence, parce que quand on veut élaborer de plus en plus sa stratégie de taille de la pierre pour faire des outils d'une forme prévue à l'avance, il n'y a pas 56 000 méthodes finalement. Et les humains ont en permanence inventé et réinventé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phénomènes de réinvention. On voit réapparaître un objet sous sa forme primitive et se redévelopper localement, alors qu'il avait déjà été développé 500 000 ans auparavant, à l'autre bout de l'Afrique, par exemple.
Justement, Nicolette Essendi, il y a des grands sites dans le monde qui ont bouleversé notre compréhension, précisément des origines de ces technologies à partir de la pierre. Il faut aller où pour trouver donc les plus anciens témoins?
Alors, les plus anciens témoins, on est aujourd'hui en Afrique, et depuis assez longtemps, on est en Afrique de l'Est, dans le Grand Rift, ce qu'on appelle la Rift Valley, Est africaine. Il y a des sites remarquables. Bon, aujourd'hui, il s'appelle l'Omekwi, c'est ce fameux site à 3,3 millions d'années. Hein, c'est des outils qui ont été trouvés par ma collègue, d'ailleurs de mon laboratoire à Toulouse, qui s'appelle Sonia Armand. Après, il y a un site remarquable aussi en Afrique qui, moi, m'a toujours frappé. C'est un site qui s'appelle Lokalelei. C'est l'ancien, plus ancien, qui détenait le score, quoi, 2,4 millions d'années. Et où là, ce qui est impressionnant, c'est qu'on n'a pas un ou deux outils. On a pu remonter, donc on a pu faire comme un puzzle, c'est-à-dire de prendre les éclats qui ont été sortis d'un même bloc, de les raccorder les uns avec les autres et de reconstituer les opérations qui ont été faites sur un bloc de matière première donnée. Et on s'est rendu compte que 2,4 millions d'années, les hominines qui faisaient ces actions étaient capables de détacher 30 ou 40 éclats d'un même bloc, ce qui demande quand même toute une stratégie. Si je vous donne la roche d'origine, Mathieu...
je ne vais pas en faire grand-chose.
Vous n'allez pas en sortir 40. Un peut-être, par chance, mais pas 40. Ouais. Donc, ça nous révèle c'est une intelligence enregistrée, quoi, la pierre, en fait. Ouais. Ça enregistre plus que notre crâne. C'est-à-dire que, pour dire aux auditeurs, quand on trouve un crâne, c'est une boîte vide, parce qu'on n'a plus le cerveau dedans, et donc c'est difficile d'enquêter dessus. On peut, mais c'est difficile. La pierre, c'est un révélateur direct finalement du cerveau qu'a fondu de nos ancêtres.
Il faut reparler justement de ces deux périodes que vous venez de nous citer, 2,4 millions d'années et 3,3 millions d'années, parce qu'entre ces deux périodes, ce n'est pas du tout les mêmes humanités, c'est ce qu'on disait rapidement tout à l'heure, et ça a bouleversé aussi notre compréhension de notre propre genre homo et de ce qu'on était capable de faire par rapport à toutes les espèces qui nous avaient précédés.
Pendant longtemps, on disait l'outil est le propre de l'homme, et du coup, on raccordait les premiers outils aux premiers représentants du genre homo, donc notre genre humain.
2,4 millions, on a quel genre là?
2,3 millions, 2,4 millions, on pouvait être sur les premières. Enfin, on est à la frontière des premiers homos, habilis. D'ailleurs, pendant longtemps, on a parlé d'habilis, l'homme habile, c'était lié à sa faculté à tailler des pierres. Mais là, quand on est à 3,3 millions, on n'est plus du tout dans, enfin, le genre homo
est pas arrivé encore.
Au moins un gros million d'années avant.
C'est ça.
Avant le genre homo, donc on est soit sur des formes de ce qu'on appelle des paranthropes, soit sur les australopithèques, dont la fameuse Lucie est la plus célèbre.
Ouais. 3,2 millions d'années pour Lucie, c'est
ça. Voilà, on est sans doute vers. C'est ce type de créatures qui sont pas encore rangées par les anthropologues dans le genre humain, mais qui possèdent déjà des caractères quand même très évolués au niveau à la fois anatomique, des formes de bipédie, etc. Et visiblement aussi au niveau comportemental et cognitif.
Ouais, donc là, il y a une petite blessure narcissique pour le genre homo quand même, quand on fait cette découverte. D'ailleurs, elle a été très discutée au niveau des scientifiques.
Oui, parce que c'est des sites où on peut pas dater directement le carbone 14 marche que jusqu'à 50 000 ans, enfin voilà, donc les méthodes de datation sont complexes, mais l'avantage du rift, c'est qu'on est sur cette grande faille volcanique et qu'en fait on arrive bien à dater les formations sédimentaires. Donc ce qu'on va dater, c'est les formations de sédiments de terre dans lesquels les outils vont être trouvés. Après, c'est tout un tas de débats de savoir est-ce que les outils sont bien en place, dans leur place originelle, dans cette couche de sédiments, etc. Ouais. Donc c'est des enquêtes complexes.
Oui, ouais, mais ça bouleverse quand même les connaissances.
Tout à fait.
Quand on découvre que tout d'un coup, un australopithèque est en capacité de fabriquer des pierres, des outils à base de pierres, c'est quand même
ça a été pendant longtemps. D'ailleurs, l'australopithèque, ça veut dire singe austral. Ouais. Pithèque, c'est le singe. Et quand on l'a nommé de la sorte, je pense pas que les gens qui l'ont nommé de la sorte pensaient que ça serait lui le premier artisan de la taille de la pierre.
Ouais. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on peut aussi
remonter
peut-être le temps encore plus loin. On va poursuivre cette découverte de l'âge de la pierre. Donc, énorme période avec vous, Nicolette Essendi. Puis, bien sûr, vous répondrez aux messages, aux questions qui arrivent pour vous sur la page de la Terre au Carré.
France Inter, Mathieu Vidard, La Terre au carré.
Je me suis toujours demandé comment les hommes préhistoriques se coupaient les cheveux et se taillaient la barbe. Parce que ce n'est pas pratique avec du silex, et ça ne coupe pas très bien. Alors je me suis dit qu'ils les ont peut-être brûlés.
Ce genre de moment est important pour les êtres humains. Je fais preuve de sociabilité. Je pourrais tout aussi bien le débarrasser de ses parasites. Retire les poils brûlés.
Merci, Pedro.
Je t'en prie.
Tu veux que je brûle ta barbe ?
Non, merci.
Voilà, on vous déconseille évidemment de faire l'expérience à la maison. À l'instant, c'était un archéologue qui s'appelait Werner Pfeiffer. C'était dans un documentaire d'Arte sur le retour à l'âge de pierre. Et l'âge de pierre, justement, c'est le thème de cette émission et le début d'une grande série que nous allons consacrer à l'âge des matériaux et qui nous emmènera jusqu'à l'âge du plastique. Nicolas Tessandier, c'est quoi, vous, votre religion là-dessus ? Est-ce qu'à votre avis, les préhistoriques se coupaient les cheveux avec du silex ? Vous avez testé, vous, ou pas ?
J'ai pas de preuves scientifiques, ça serait pas trop un gros problème, oui.
Ça
c'est tellement tranchant.
Ça coupait quand même.
Ah bah oui,
c'est
parce heureusement qu'il avait l'air de lire.
Oui, mais c'est pas l'air. Cet archéologue dit le contraire. Donc,
En tout cas, on sait que, par exemple, dans les périodes pharaoniques en Égypte, où ils avaient des lames d'obsidienne, un verre volcanique qui est ultra affûté. Là, il y avait des rasoirs, enfin, il y avait tout un... Mais bon, là, on parle de période bien post-paléolithique.
C'est ça.
Quoi.
En tout cas, la fin de l'âge de pierre, on le disait tout à l'heure, en fait, on peut considérer que certaines cultures utilisent encore un petit peu la pierre, mais enfin, très très peu, évidemment, aujourd'hui. S'il y a quand même une date un peu de fin, ou pas, on considère vraiment qu'on est passé à autre chose parce que, précisément, on est rentré dans l'âge des métaux ou...
Bah, dans ce cas-là, ça serait post-néolithique, quoi.
Ouais.
Sachant qu'au néolithique, bon, il y a la céramique, il y a la terre cuite qui arrive en plus de la pierre, mais la pierre reste ultra, ultra présente chez les premiers agriculteurs, éleveurs, agropasteurs.
Donc on voit que c'est très compliqué quand même de pouvoir définir.
Après, ça devient vraiment, pendant l'âge des métaux, on continue à avoir des industries, des ensembles en pierre taillée, mais ça devient très fruste. Et on sent que c'est relégué au second plan, quoi, que ça n'a plus l'importance que ça avait, et on n'y met plus l'investissement technique, économique qui avait au paléolithique et au néolithique.
Nicolas Tessandier, si on revient vraiment aux premiers fabricants d'outils en pierre, on parlait de 3 millions d'années avec tout à l'heure les Australopithèques, 3,3 millions d'années. Qu'est-ce que ça raconte aussi le fait de fabriquer intentionnellement un outil par rapport à l'usage opportuniste d'objets qu'on peut trouver comme ça dans la nature autour de soi? Ça marque une vraie rupture là aussi quand même, non, sur l'évolution humaine.
Ben c'est les outils à faire des outils, quoi. Donc c'est plus juste ramasser se servir des formes que l'environnement nous fournit, un galet pour écraser ouvrir un fruit à coque, un bâton pour aller chercher les termites dans une termitière, etc. Donc ça, l'outil en tant que tel, légèrement aménagé, etc., est commun dans le règne animal, hein, et les non-humains s'outillent. Mais par contre, la production intentionnelle, avec une stratégie de production, une chaîne opératoire de production dédiée à une fonction particulière, etc., ça marque une rupture dans l'évolution humaine au sens très très large du terme. Si on prend le phénomène humain depuis Toumaï,
c'est ça.
Il y a 7 millions d'années,
7 millions
par exemple.
D'années, ouais. Ça veut dire qu'on a une capacité de tout d'un coup de se projeter mentalement autour d'une matière brute et de se dire tiens, je vais pouvoir en faire quelque chose. Et ça, du point de vue cognitif, c'est quand même aussi une évolution.
Ouais, il y a des facultés d'anticipation. On y reviendra sans doute. Il y a aussi des facultés de
transmission,
de passer le comportement à d'autres, donc de transmettre le savoir pour que ce qui fait un peu le propre de l'homme, plus que l'outil, à mon avis, c'est la culture, une forme de cumulation de la culture, quoi. Cette culture cumulative qui fait qu'à chaque step, on se sert du bagage qu'ont acquis les prédécesseurs, et puis on y apporte une
amélioration
en plus, un petit élément en plus, etc.
Quelle justement grande tradition technique, on pourrait dire, hein, autour de la pierre, il faut retenir, parce qu'on a souvent en tête le silex, effectivement, le biface. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme ça, comme objet à partir de la pierre, qui raconte aussi cette évolution humaine, Nicolas Tessandier ?
De formes d'objets, ouais, de familles d'objets.
Ouais.
On va dire que pour aller très vite, au départ, on a eu ce qu'on appelait les galets aménagés, les fameux shoppers, shopping tools.
Donc c'est quoi ça exactement?
Ça, c'est un galet, on s'imagine un galet de rivière, à une extrémité du galet de rivière, on porte 2-3 enlèvements qui font que les éclats qu'on détache sont tranchants et qu'en même temps, on dégage un tranchant sur le galet originel. Donc ça, c'était ce qu'on appelait les premières formes d'outils.
Donc les plus primitives, on va dire.
Oui, c'est relativement simple, mais ça a déjà sa fonctionnalité. Et ensuite, un pas complexe, ça va être par exemple les fameux bifaces. Donc là, en Afrique, on est un peu avant 1,5 million, 1,6 million.
Donc le biface, c'est quoi? C'est vraiment cette
biface,
forme
Ce qu'on recherche dans le biface, ce n'est pas ce qu'on va détacher du bloc de pierre, c'est ce qu'on sculpte dans le bloc de pierre. Donc ce qui est détaché du bloc, c'est des déchets.
Oui.
Même si ça peut servir à couper et à faire des tâches secondaires. Mais ce qu'on recherche, c'est la sculpture, en quelque sorte, qu'on crée dans le bloc de matière première. Et donc, c'est une forme symétrique qui, en général, oppose une base arrondie à une pointe et qui est taillée de façon symétrique sur les deux faces.
Une sorte de grosse amande, si vous regardez les choses comme ça.
Voilà. Et avec cette notion de symétrie, etc., qui demande, là, au niveau conceptuel, c'est quelque chose qui, quand on fait de la taille expérimentale, arriver à un biface abouti, c'est des années et des années aujourd'hui d'apprentissage pour un jeune tailleur de silex préhistorien qui voudrait se former.
Vous savez tailler, vous, d'ailleurs?
Moi, j'ai eu taillé jeune, parce que j'étais avec un préhistorien, je fouillais pas mal avec un préhistorien, et des gens qui étaient des très très bons tailleurs, donc j'ai taillé, je taillote.
Ouais. Et qu'est-ce que ça dit justement de l'apprentissage? C'est compliqué d'apprendre à tailler une pierre, surtout pour notre cerveau moderne?
C'est surtout que maintenant, nous on apprend à tailler à l'université, sur les chantiers de fouilles, auprès d'expérimentateurs actuels très, très compétents, mais nous on a en tête déjà tout le répertoire fossile. Donc c'est-à-dire que nous on connaît toutes les méthodes possibles pour arriver à tel résultat. Mmh. Alors que si on se place il y a 1 million d'années, il y a 1 500 000 ou il y a 20 000 ans, le registre, le bagage technologique d'un groupe n'était pas du tout le même,
parce que
le savoir transmis n'était pas le même. Mais en tout cas, oui, moi je compare ça à une activité, à n'importe quelle activité artisanale, un ébéniste, un menuisier, on se dirait pas qu'on va l'apprendre en quelques mois. Là c'est pareil, c'est des années d'apprentissage.
Et les premiers bifaces, alors ils apparaissent quand, a priori?
Les premiers bifaces en Afrique, c'est autour de 1,7-1,8 million d'années, donc c'est très vieux. Ça sera beaucoup plus tard en Europe. Et ce qui est intéressant avec le biface, par exemple, c'est qu'on va voir réapparaître le biface, à commencer par des formes assez proto-bifaces, on pourrait dire, un peu grossières, jusqu'à arriver en Afrique à des bifaces vraiment très très réguliers, très symétriques, plusieurs centaines de milliers d'années après. Et en Europe, en Eurasie, on va revivre la même chose. C'est-à-dire, on va recommencer 1 million d'années après, on va recommencer le cycle du biface avec des proto-bifaces et des bifaces qui sont ensuite très élaborés, mais beaucoup plus tard.
Ça, c'est étonnant quand même.
Ce qui montre que la préhistoire, il faut l'imaginer, c'est une histoire scindée. C'est comme si on était avec plein d'îles et que la Terre était un chapelet d'îles. Parce qu'en fait, il faut s'imaginer sur les périodes reculées des tout petits groupes et donc plein de savoirs qui se perdent parce qu'il y a plein de groupes qui disparaissent. Mm-hmm. Et donc les savoirs n'ont pas été continus. Les beaux bifaces ne sont pas sortis d'Afrique pour être transportés en Europe. Non, Europe, on a recommencé et on a réinventé, on a réélaboré, etc.
C'est ballot quand même, quand on voit le temps que ça prend en apprentissage de louper ce qui s'est passé chez les voisins.
Il n'y avait pas la même connectivité sur les périodes anciennes que ce qu'on peut trouver aux périodes plus récentes.
Qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, vous disiez les galets, les bifaces.
Les bifaces, ensuite
on appelle silex, en fait, silex, bifaces, c'est pareil.
Silex, c'est la matière.
Ouais,
silex, c'est vraiment juste la matière. Ça dit rien de la technologie et de ce que l'homme en a fait.
Donc c'est la pierre. Hein.
C'est simplement une pierre qui a été privilégiée. Disons que quand il y a du silex dans un environnement, il n'y en a pas partout, mais quand il y a du silex dans un environnement, en général, il privilégie le silex parce que ça se taille très bien.
C'est ça.
Beaucoup mieux que d'autres roches.
Mais c'est vrai, quand on parle silex, on pense toujours au biface.
Oui.
Enfin, très souvent, en tout cas, on l'associe. Donc galets, biface. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à retenir?
On pourrait citer ce qu'on appelle le levallois. C'est donc cette façon de faire des éclats d'une forme stéréotypée. Donc c'est ce qui nous renseigne un peu sur l'anticipation, le fait de mettre en place sur le bloc de pierre, des aménagements particuliers qui font que vous allez pouvoir décider de faire un éclat pointu, un éclat quadrangulaire, de telle taille. Et par exemple, sur votre bloc de pierre, quand il est bien préparé, vous pouvez, avec une craie, dessiner le contour de l'éclat, hop, vous faites un coup, ça marche super bien quand on fait des démonstrations, et ça sort et ça suit exactement le contour qu'on avait fait avec
ouais, voilà,
là, c'est la grande classe. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui est emblématique de centaines de milliers d'années de taille de la pierre en préhistoire. On peut parler des lames, donc qui sont des éclats beaucoup plus longs que larges, avec des bords parallèles, qui, pareil, là aussi, c'est des formes qui vont demander beaucoup d'anticipation, et on va rentrer dans des formes plus standardisées.
Le Levallois, c'est quelle période?
Le Levallois, on va dire que globalement, c'est le paléolithique moyen, donc c'est entre 350 et 50 000 ans avant le présent, et c'est à la fois Néandertal, Denisova, et Sapiens en Afrique.
Voilà. Et ensuite, les lames
Et les lames, alors il y en a des traits, il y a des proto-lames, il y en a depuis 500 000 ans, des lames, mais c'est l'apanage de ce qu'on appelle le paléolithique supérieur ou récent, où là, c'est vraiment systématiquement des lames, et là, on est pour le paléolithique supérieur. Maintenant, on dit récent, pour éviter cette petite pointe de supériorité qui n'est pas réelle. Et là, on est entre 45 000 et 12 000 ans avant le présent.
Et alors, tous ces objets en pierre, ils servent à des choses très précises, ou ça peut être multifonction, par exemple, sur des bifaces
Alors, pour faire très vite, on est plutôt passé d'objets multifonctionnels. On a l'impression qu'on est plutôt passé d'objets qui avaient des multifonctions. Quand on est sur, par exemple, les sapiens du paléolithique récent, là, entre 40 et 10 000 ans, là, on a multiplication de types d'outils dédiés à des fonctions particulières. Des pointes de projectiles, des perçoirs pour percer, des grattoirs pour gratter les peaux, des burins pour rainurer, etc. Donc, on a eu des outils plus multifonctionnels à des moments. Mais quand même, plus on avance dans le temps, plus il y a quand même un phénomène d'une forme de spécialisation fonctionnelle et on dédie des productions particulières pour des fonctions particulières.
Vous pensez à quoi, par exemple?
En fonction particulière?
Oui, c'est ça.
Déjà, il y a une grande opposition qui marche bien, c'est tout ce qui est chasse et domestique, c'est-à-dire ce qui sert à la chasse, au cinégétique,
et à la maison.
Ce qui sert à la maison, on va dire. Et dans ce qui sert à la maison, on va avoir toutes les panoplies là dont on vient de parler rapidement, là. Grattoir, burin, perçoir. On a toute une typologie d'objets qui sont dédiés à des fonctions particulières.
On va parler avec vous de la transmission des savoirs, parce que ça, évidemment, c'est extrêmement important quand on taille un outil, c'est de pouvoir aussi transmettre sa connaissance. Et puis vous répondrez au message. On attend vos questions sur le site de la Terre au Carré pour notre invité Nicolas Tessandier.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter. L'Europe a été peuplée de chasseurs-cueilleurs jusqu'à ce qu'une révolution s'opère il y a 12 000 ans.
Le passage d'une société de chasseurs-cueilleurs à une société d'agriculteurs sédentaires est une évolution fondamentale dans l'histoire de l'humanité. L'homme a vécu de la chasse et de la cueillette pendant des millions d'années. Et voilà qu'il change subitement de mode de vie. C'est un changement bien plus radical que le passage à l'ère numérique ou à l'ère industrielle.
Le préhistorien Hermann Partzinger dans un documentaire d'Arte sur les énigmes de l'âge de pierre. Nicolas Tessandier, vous êtes archéologue et préhistorien et on parle donc avec vous de cet âge. Est-ce que justement l'émergence du néolithique avec la sédentarisation des populations, avec la naissance de l'agriculture, est-ce que ça joue précisément sur l'usage aussi des outils en pierre ou pas?
Oui, il y a... Disons que c'est pas tant un gap technologique, je dirais, qu'un gap économique et social. C'est-à-dire qu'avec le néolithique, par exemple, on va voir se développer des économies de diffusion des matériaux taillés, notamment par exemple l'obsidienne en Méditerranée, donc ce verre volcanique qui n'est disponible que sur quelques îles, Sardes, Sicile, Grèce, etc. Et on va voir se mettre en place des réseaux de colporteurs, donc de tailleurs spécialistes de grandes lames d'obsidienne. Et ensuite se mettre en place par bateau, par navigation, etc.
Donc
des réseaux de diffusion et de commerce,
on pourrait dire. Voilà, et une industrie, donc.
Auto-commerce au néolithique. Donc, c'est, bien sûr, il y a des évolutions technologiques, il y a ce qu'on appelle la taille par pression, il y a des élaborations technologiques, mais la chose la plus marquante me semble plus sociale et économique, avec la façon dont les matériaux et la pierre taillée s'inscrivent dans des réseaux de distribution, d'échange.
On a des métaux déjà au néolithique.
À la toute fin, on peut avoir un peu de bronze, mais vraiment à la toute fin.
Ouais. Donc on est quand même toujours dans la pierre.
Ah oui, oui, ouais. on est quand même dans un monde des pierres. Pierre et céramique.
Ouais. La transmission des savoirs, ça il faut en parler parce que c'est extrêmement important. Il y a effectivement dans l'usage de la pierre l'enjeu aussi de pouvoir enseigner à l'autre sa connaissance. Comment ça se caractérise précisément dans cette évolution humaine alors ?
Ben oui, c'est-à-dire que à un moment donné, des choses très simples comme les galets taillés sommairement dont on parlait tout à l'heure, ouais. À la limite, il suffit peut-être de croiser, de voir une pierre taillée de la sorte et ensuite d'essayer seul dans son coin et de peut-être pouvoir arriver au résultat. Mais par contre, si je vous tends une lame, si on regarde une lame du paléolithique supérieur d'il y a 30 000 ans, et qu'ensuite vous avez un rognon de silex de forme complètement variable, il n'y a rien qui est inscrit sur cette lame pour vous apprendre à aller au résultat.
Ouais.
Et là, il faut forcément, et on sait qu'il y a eu des campements domestiques servaient, dans certains coins du campement, il y avait la zone atelier. Quoi.
C'était l'école.
Voilà. Il y avait l'école, et on le voit très très bien. C'est-à-dire qu'on peut maintenant classer les blocs taillés en fonction de experts,
élèves,
débutants, intermédiaires. Enfin voilà, il y a toute une gamme d'expressions des savoir-faire qui se lit très bien sur les pierres taillées dans des sites qui ont des bonnes conditions de conservation. Vous allez avoir toute la chaîne opératoire, par exemple, taillée sur place.
Ouais.
Parce que, par exemple, le travail des apprentis va rester sur place. Vous allez pouvoir remonter tout le bloc. Parce que c'était pas un bloc qui était fait pour être productif, entre guillemets. C'était plus un bloc pour apprendre.
Mais on a retrouvé des ateliers encore ?
Ouais, ouais, ouais. Dans le bassin parisien, il y a des choses assez extraordinaires. Là, il y a des sites très, très bien conservés, notamment un Pincevent qui avait été fouillé par André Leroy-Gourand.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé alors, par exemple ?
Bah là, c'est un campement de chasseurs de rennes, mais c'est un campement domestique. Donc on a les foyers qui structurent un peu l'espace, les zones, les calages de tentes, etc., etc. Et puis ils venaient là en bord de Seine chasser le renne, mais comme ils y habitaient en même temps, bah, on va avoir toute une gradation d'expression de savoir-faire.
Mm-hmm.
Depuis vraiment des blocs de silex qui étaient taillés par des tailleurs experts pour faire des grandes lames assez remarquables, jusqu'à vraiment des essais, ou même des traces qui sont interprétées comme des traces d'enfants, c'est-à-dire complètement anarchiques, on tape n'importe où, vraisemblablement aussi, il y avait des processus d'imitation, c'est-à-dire que quand vous voyez les parents ou les adultes du groupe tailler la pierre...
On laisse les enfants jouer quelques cailloux pour...
Mais on les laisse jouer avec les cailloux pas beaux, quoi.
Oui, c'est ça.
On leur donne pas la belle réserve, quoi.
Et ça, on est à quelle époque, là, sur ce campement ?
Là, sur ces sites-là, on est au ce qu'on appelle le Magdalénien, on est à la fin du paléolithique supérieur, vers 16 000 ans,
ouais,
à peu près, sur les bords de Seine.
Est-ce que cette maîtrise des outils, Nicolas Tessandier, ça a transformé profondément les relations sociales, justement, des humains, entre eux ?
Ben, on peut
le fait de devoir
enseigner... Ouais, on peut penser quand même que le fait de transmettre à ses semblables, à son groupe, à ses contemporains, déjà, on peut penser que peut-être qu'il... progressivement, il y a quand même eu des façons dont la société se subdivisait en fonction des tâches qui étaient particulières. C'est-à-dire, autant on voit pas grand-chose pendant une grande partie de la préhistoire sur des spécialisations artisanales, des spécialisations de tâches. Autant quand on avance dans ce paléolithique récent, on voit quand même se mettre en place des expressions de savoir plus spécialisées, des outils dédiés uniquement à une tâche et pas à une autre. Donc on a l'impression de voir se mettre en place des sociétés qui se structurent socialement, avec des acteurs qui se structurent, vraisemblablement peut-être des rapports, est-ce qu'il y avait une répartition des tâches ? Oui. Mm-hmm. Est-ce qu'elle était genrée, par exemple ? C'est des questions qui agitent beaucoup la communauté.
En tout cas, il y a des écoles, finalement. C'est ce que vous nous dites.
Il y a des véritables écoles.
Qui structurent les groupes.
Et on voit même moi, je me souviens, je peux donner une anecdote des passages de main. C'est-à-dire un bloc très bien taillé pour l'aménagement du bloc. Et au moment où vous devez sortir la lame, ça devient un massacre. Et en fait, on pense que c'est, l'apprenant qui a préformé le bloc, qui lui a donné sa forme et qui l'a donné à un apprenti pour qu'il apprenne à détacher les lames, et l'apprenti n'a pas réussi. Donc on voit des choses, des moments sensibles comme ça.
Est-ce qu'entre Néandertal et Homo sapiens, au moment de leur rencontre, on peut imaginer aussi qu'il y a eu transmission de savoir avec des techniques très différentes d'ailleurs, selon les deux espèces ?
On peut. La difficulté, c'est que finalement, c'est assez ubiquiste. C'est-à-dire que ce qui est capable de faire Néandertal techniquement est aussi élevé que ce que les sapiens contemporains sont capables de faire. Donc si on prend un néandertalien d'il y a 50 000 ans et un sapiens d'il y a 50 000 ans, c'est pas dans le technique qu'on va trouver plus de compétences ou d'exercices de savoir-faire chez l'un ou chez l'autre.
Donc, c'est dans quoi alors ?
Ça se joue plus, à mon avis, sur la connectivité sociale, le fait que, par exemple, on connaisse quelques potentiels objets de parure néandertaliens, et encore, ils ne sont pas intentionnellement transformés, alors qu'on en a des centaines de milliers sous le règne de Sapiens. Quoi. Donc, ça se joue, leur différence, elle se joue plus sur la façon dont ils expriment leur marque dans le paysage, dont ils pensent la société, dont ils sont régis par des mythes, et dont les échanges se font entre les gens... la manière dont on s'identifie, dont on se différencie, etc.
Allez, on passe aux questions. Alors, vous en avez parlé très rapidement, mais il y a une question de Françoise qui demande si le travail de la pierre était genré, justement, homme ou femme. Et est-ce qu'on peut le savoir ?
Grand débat.
Pourra-t-on jamais le savoir ?
Au Paléolithique, c'est très difficile. Ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'il est souvent proposé que... le cinégétique, la chasse aux grands mammifères et la chasse qui fait saigner, soit plutôt masculine. Alors c'est décrié, mais par exemple, on a des marqueurs d'activité, notamment des marqueurs d'activité du lancer, des activités de lancer type ce qu'ont les lanceurs de javelot aujourd'hui. Ça se marque musculairement au niveau de l'anatomie des os.
Il y a des femmes qui font ça très bien.
Oui, et pourtant, sur les quelques évidences qu'on a d'évidence squelettique de mouvement de lancer, c'est que chez les sujets masculins. Donc, est-ce à dire que, comme l'ethnographie et l'anthropologie sociale l'a dit, les activités de chasse qui font saigner étaient masculines, mais on pourrait aussi très bien dire que si des activités domestiques étaient féminines, prenons, elles devaient l'être forcément à certains moments, alors on a des productions techniques très complexes pour faire les outils, par exemple les fameux grattoirs au Paléolithique supérieur, c'est des lames très... difficiles à faire, qui servent à faire ces outils. Et dans ce cas-là, si des femmes utilisaient les grattoirs, on peut penser que c'était les femmes qui produisaient les grattoirs et qu'elles avaient des technologies très élaborées. Donc,
c'est des grands débats, ça.
C'est des grands débats.
Au sein de la science.
Mais très, très compliqué à prouver.
Gilles demande quelle technique était utilisée pour polir la pierre.
Alors, polir la pierre, c'est... D'ailleurs, on aurait pu parler... Il y a l'âge de la pierre taillée, qui est le paléolithique, en gros, maintenant, et l'âge de la pierre polie, qui est le néolithique. Et c'était notamment le cas des haches, qui servaient à ouvrir les territoires.
Donc ça, quand même, on a deux périodes distinctes.
Ouais, dans les âges, à l'époque où on utilisait encore les notions d'âge, il y avait le taillé et poli. Et poli, c'est le néolithique. Ouais. C'est notamment les haches polies. Quelle technique ? C'est des haches qui peuvent être taillées en silex et qui ensuite, de l'eau, un peu de sable et des matériaux abrasifs type du grès. Et puis après, faut avoir envie de passer beaucoup de temps à frotter sa hache taillée pour qu'elle devienne bien lisse et polie avec un tranchant très affûté.
Victoria demande si l'utilisation de la pierre a eu pour conséquence la sédentarisation des populations.
Non, je ne crois pas. Non. La sédentarisation, c'est un vaste sujet. Pourquoi les populations, d'abord au Proche-Orient, se sont mises à se sédentariser ? Est-ce qu'il y a eu des moments entre changement climatique, démographie grimpante, et puis l'agriculture et l'élevage, une fois que vous êtes agriculteur-éleveur, vous avez besoin de vous sédentariser quand même. On peut être nomade, mais forcément, quand vous avez vos champs...
Il faut des conditions particulières aussi pour pouvoir rester...
Mais après, la taille de la pierre, je pense, n'a rien à voir avec tout ça.
Thierry demande s'il existe des lieux, des gisements de roches à fleurs où les humains se réunissaient pour tailler leurs outils à la chaîne avant de se remettre en mouvement et d'y revenir ensuite, lorsque le besoin s'en faisait sentir.
Oui. Moi, j'ai beaucoup fouillé dans une région près de Bergerac quand j'étais jeune étudiant, et c'est une usine à silex, parce qu'il y a ce fameux silex qu'on appelle le silex du Bergeracois, qui est très beau, très bonne qualité et présent en grande abondance. Et là, on avait vraiment des ateliers à plein de périodes différentes où les gens venaient et ensuite on exportait les outils ailleurs dans son parcours nomade.
Patricia demande si les sociétés de l'âge de pierre avaient des boîtes à outils pour transporter leur fabrication. Est-ce qu'ils devaient construire à chaque fois qu'ils se déplaçaient, justement, ces outils ?
Ça a dû dépendre des périodes, mais si on prend la période paléolithique supérieure, sapiens, entre 40 et 10 000 ans, oui, ils avaient leur petite sacoche en cuir, on devait avoir son grattoir favori, son couteau quand on allait à la chasse, etc.
Dernière question, Cédric demande si on trouve une pierre taillée, un biface, est-ce qu'on peut le garder ou est-ce qu'on doit prévenir une institution archéologique et le rapporter à celle-ci ?
Alors, si c'en est une toute petite, la règle, c'est que si vous trouvez quelque chose dans la nature qui semble être intéressant, avec une association, avec plusieurs morceaux de silex taillés, ouais. Prendre des photos et ensuite essayer de le faire savoir à ce qu'on appelle les services régionaux de l'archéologie qui dépendent du ministère de la Culture.
Oui, donc on garde pas forcément.
Non,
c'est pas conseillé.
Après, il y en a. Enfin, c'est. Il y a millions de silex taillés à travers champs, donc il y a des collectionneurs. Il y a des collectionneurs.
Très
mais il ne faut pas détériorer et il vaut mieux pas toucher.
Merci beaucoup Nicolas Tessandier. Premier épisode donc de notre série sur les âges avec l'âge de la pierre. Je renvoie sur un de vos livres, Nos premières fois, 30 préhistoires extraordinaires. C'était chez Champs Histoire en 2022 et on trouve toujours cet ouvrage. Merci beaucoup à vous d'être venu au micro de la Terre au Carré.